Est-ce qu'il y a un sujet? Question? Quelque chose qui flotte ou qui... trotte.
Qu'on fait dans le sens qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on fait là et est-ce qu'il faut en faire quelque chose quelque part, parce que est-ce qu'on fait juste enfin je crois que ma question plutôt c'est pas est-ce qu'il faut ça ou ça, c'est comment on peut en faire comment on peut en faire quelque chose quoi, le sortir de cet espace-là ou du coussin.
C'est, je comprends bien la question. Il s'agit de faire ou être quelque part et de aller ailleurs et faire quelque chose, c'est ça?
Peut-être plus exactement, plus généralement, j'en sais rien. En fait, finalement, je pourrais presque répondre tout seul à ma question. Mais je pourrais y répondre tout seul en disant. Finalement, je ne suis pas isolé du reste du monde et je suis en interaction tout le temps avec le reste du monde, avec le monde. Et ce que je fais, moi, c'est le monde entier qui le fait quelque part. Donc c'est pas juste moi. Et quand j'interagis avec les autres, c'est aussi une expression de ce que je fais ici. Du coup, nécessairement ça sort de là. Mais je sais pas, il y a une partie de moi qui se demande, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de plus que juste peut-être passivement exprimer le résultat de la pratique quoi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Je sais pas si c'est clair.
Euh, Je pense qu'on pouvait bénéficier de quelque chose de concret. Si tu pouvais nous donner un exemple concret. Au même temps, ce que j'entends, c'est ce qui est implicite, c'est que il y a un résultat. On fait quelque chose et il y a un résultat.
Ouais.
Et il faut faire d'autres choses ou si je comprends bien ce qu'il dit. Et il y a une façon de répondre à ça, c'est que on ne fait rien. Et le maximum qu'on puisse faire, c'est d'être soi-même. Et être soi-même là où on est, avec les circonstances qu'il y a, qui se trouvent là. Ce qu'on fait ici, si on dit qu'on fait quelque chose, si je dis ok, je fais zazen, je fais la méditation, j'ai une discipline de méditation, ça nous aide à se libérer de ce qui nous entrave, ce qui nous permet donc de s'épanouir, d'être pleinement qui on est, avec soi-même, avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu...
Ouais, mais en fait je me rends compte en posant la question, j'ai du mal à trouver quelque chose de concret parce que justement c'est ce que je cherche un exemple concret, mais je me rends compte en posant la question que c'est peut-être, je sais pas comment dire. Enfin que, ouais, peut-être que j'ai peut-être envie de. Peut-être de ne pas être le seul à récolter les fruits de ça quelque part et de la pratique et
tu ne l'es pas.
Ouais.
Tu dis oui, mais je suis pas convaincue.
J'arrive pas à mettre le doigt sur ce que je veux dire. C'est ça. C'est pas clair. Que ouais, je sais pas. C'est comme s'il y avait un désir ou une de. De produire quelque chose, peut-être, ouais. Comme, tu vois, de la même manière que, par exemple, si on fait de longues études, qu'on fait une thèse, on écrit une thèse, on rédige un document, et ce document, ensuite, il est là, et éventuellement, il peut être lu par d'autres personnes, il peut servir à d'autres personnes, et voilà, ou si on fait, si on travaille ailleurs que, dans tout travail, finalement, ailleurs que dans le monde académique, il y a un résultat de notre travail, et ce résultat, il sert à d'autres personnes, etc. Et là, c'est comment
là ? Là, ta vie est le projet. Ta vie est ce que tu produis. Ta vie est l'œuvre d'art. ici. C'est ça. Et en Inde, effectivement, dans le bouddhisme, hein, surtout dans nos branches, on a cet archétype du bodhisattva qui est considéré comme l'idéal d'un être accompli, entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui ne fait rien de spécial. C'est quelqu'un qui réalise son chemin à lui, et en faisant ça, il aide les autres à réaliser leur chemin. Il y a cette notion de partage, ce que j'entends dans ce que tu dis, et c'est très important d'honorer ce désir de partage. C'est très important ça. Et on ne sait pas comment, effectivement, on ne sait pas comment. Mais au fur et à mesure qu'on approfondit notre expérience, notre pratique, etc., ce qui se révèle, c'est qu'on n'a pas à savoir. J'adore ce personnage, Layman Peng, c'est un personnage dans le Zen qui était un laïc, qui avec sa famille, toute la famille pratiquait, sa femme, sa fille, son fils, ils se baladaient partout en Chine et ils allaient de monastère en monastère, etc. Mais c'est lui qui est célèbre pour avoir dit je ne fais rien de spécial, je ne pense pas ce que je fais ou ce que je vais faire, je fais ce qu'il y a à faire. Bon, je paraphrase un peu, c'est parce que c'est beaucoup plus poétique, mais je coupe le bois et je porte l'eau. C'est quand il y a ça à faire, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment le summum de la réalisation, ça. Rien de spécial. Rien d'extraordinaire. C'est juste faire ce qu'il y a à faire. On va essayer d'être quelqu'un d'extraordinaire, de trouver des projets magnifiques à faire. Mais la vérité est que quand on fait juste ce qu'il y a à faire, c'est magnifique. Moi, je prends un plaisir immense à laver le linge des réfugiés. Mais, enfin, je prends un plaisir aussi de laver les habits chez moi. Mais ce plaisir se transmet, se traduit aussi dans l'activité avec des réfugiés. Et c'est immense, ça. C'est la seule chose qu'il y a à faire dans le monde, en fait, à cet instant-là. Et ça, c'est plus on s'ouvre, on laisse venir sans agir, on prend ce pas en retrait qu'il s'agit de s'asseoir sur un coussin pendant une demi-heure à rien faire. Plus on fait ça, plus il y a cet espace de, comment on dit en français, en anglais, stillness, cet espace,
quiétude.
Oui, peut-être quiétude, mais qui, c'est pas forcément que c'est silence, mais c'est
stable.
Quoi?
Oui, il y a pas de tourmente, on n'est pas tourmenté, remué, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes, mais on n'est pas remué par les problèmes. On n'est pas tourmenté par les problèmes, même quand on est tourmenté. C'est pas un tourment. Et ça se manifeste dans notre être. C'est comme cette autre histoire que j'aime beaucoup, être Girish ou le jeune adepte, probablement Pologne ou Biélorussie, je ne sais pas. Autrefois, quand il y avait les shtetl et tous les juifs vivaient ensemble dans les villages, etc. Un fameux rabbin allait être près de chez eux. Près de chez eux, il fallait marcher deux jours pour y aller. Et donc, tout le groupe de jeunes ont économisé, ils ont envoyé quelqu'un pour y aller, pour recevoir l'enseignement du grand rabbin. Et donc le gars, il marche pendant deux jours, il arrive, énormément de monde, il reste pas longtemps en fait. Et puis, il repart et il rentre chez lui deux jours de marche de nouveau. Et les autres disent, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est l'enseignement? Quelle est la plus importante chose qu'il a transmise, etc. Et il dit, je ne sais pas vraiment, parce que moi, je voulais juste voir comment il lasse ses chaussures, comment il fait ses chaussures. Parce que tout est dans ça. Ça a été transmis dans ça. Lasser les chaussures était traduit, était transmis dans lasser les chaussures. L'univers entier était ça. Et c'est ce qui se passe pour nous là. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il y a la réponse très un peu pas comment on appelle ça en français smart, un peu désinvolte peut-être, non?
Malin.
Oui, un peu malin de Genpo, qui est le maître de mon maître, à la fin d'une énorme retraite où il y avait 300 personnes qui étaient là depuis 10 jours. Et c'était le dernier jour, donc il y avait des questions-réponses, etc. Et quelqu'un avait posé l'inévitable question qu'on pose toujours. Alors, c'est la fin de la retraite, c'était génial ici. Après 10 jours, on est tous super heureux, c'est bien. Et ça a l'air tellement facile quand vous parlez, quand vous donnez des exemples. Et je comprends, et c'est tellement facile. Mais demain, je dois partir. Je dois payer l'assurance, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, il faut retourner au boulot. Qu'est-ce qu'on fait quand on part ici? Et Genpo, tout à fait dans le style de Genpo, a dit, si vous voulez ne pas quitter la retraite, n'y rentre pas. Donc, je crois qu'il avait dit Zendo, en fait, mais si vous ne voulez pas quitter le Zendo, ne rentre pas dans le Zendo. Bon, ça pouvait être pris comme, ne vienne pas alors, ne vienne pas ici si tu ne veux pas repartir. Mais c'était pas ça, c'était ça, mais ce n'est pas du tout comme on pensait. C'est-à-dire que ce qui nous fait tellement de souffrance, ce qui rend la vie tellement difficile, c'est quand on fait une séparation. C'est-à-dire qu'il y a le Zendo, ce qui se passe dans le Zendo, la pratique, etc. Et puis, on quitte ça et on va dans le monde. Et c'est cette séparation que nous, on fait, qui rend la chose, la vie et la pratique, difficile. Mais en fait, ils sont un. C'est pas séparé. Ceci dit, c'est pas évident. C'est pas facile.
Ah.
It's not so obvious.
Ah.
You know, c'est vrai. Et on a tous les mêmes questions. Et on le pose de nouveau et on trouve jamais une réponse. Et en fait, la réponse se manifeste malgré nous. On ne le voit pas, mais ça se manifeste. Et de temps en temps, on dit, ah bah oui, c'est ça.
Mais parfois, on peut aussi se dire que finalement, on n'a pas besoin d'assises.
Exactement.
C'est possible, hein? Tout à fait.
Ça marche.
Tout à fait. C'est autre chose. Oui, c'est vrai. Quoi?
Besoin.
Oui, non, c'est tout à fait possible. Là, on parle de une pratique qu'on fait, où on s'assoit, une pratique de méditation. Je parle de mon expérience. Je peux parler de mon expérience quand je ne faisais pas la méditation. C'est vrai. Je sais ce que c'était, ça. Et je peux parler de mon expérience quand je m'assois plus. Donc oui, c'est tout ce que je vais dire, c'est mon expérience. Mais c'est tout à fait possible, hein, de, comme disait Maizumi Roshi, si vous n'avez pas besoin de faire ça, ne le faites pas. Surtout pas. C'est beaucoup trop compliqué. Et si on n'a pas besoin de ça, mais ne le faites pas.
Si on se dit qu'on n'a pas besoin, on peut aussi être en train de. Ça peut être une stratégie de cacher je ne sais quoi et de. Ou de fuite, ou de ne pas vouloir voir. Ou...
Ça pourrait être aussi ça. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou ça peut être juste que ça. On n'a pas envie de faire ça. Ou. Que ça nous touche pas, ça résonne pas, c'est une pratique qui ne résonne pas avec nous. Il y a tout un tas de possibilités. Moi, je ne fais pas de yoga, mais je ne considère pas que c'est une fuite, que je fuis quelque chose en ne faisant pas de yoga. C'est juste que ça me parle pas. Enfin. Je n'ai pas vraiment une affinité pour ça. Bon, peut-être que si je le faisais à fond, je vais découvrir quelque chose d'extraordinaire pour moi qui me change la vie. Je ne sais pas. Pour l'instant, mon chemin ne m'a pas amené là. Donc, mais je ne crois pas que c'est une fuite, que je fuis quelque chose en ne le faisant pas. Je sais pas, il y a plein de choses qu'on fait et d'autres qu'on fait pas. Je sais pas. C'est une bonne question quand même de se dire, ok, mais pourquoi je fais ça?
Et toi, qu'est-ce que ça t'a amené?
Quoi?
Toi, si on te dit toi, qu'est-ce que ça t'a amené?
Moi, oui, si moi je me dis qu'est-ce que oui. Ça m'a amené? Alors, est-ce que ça m'a amené quelque chose? Je ne sais pas si je formule ça comme ça. Ce que je sais, c'est que ma vie est transformée par ce que je fais depuis 25 ans. Ça c'est sûr, c'est vrai. Et j'ai l'impression de vivre pleinement ma vie, ce que je n'avais pas cette impression avant que je faisais ça. Ça c'est sûr. Mais est-ce que ça m'a amené quelque chose? Parce que le fait est que c'est moi qui le fais, entre guillemets. Si on dit qu'on fait quelque chose, c'est pas quelque chose de l'extérieur. Moi, je me pose sur un coussin et je reste avec ce qui est. C'est tout. C'est très très basique en fait. C'est ça. Ça me.
Finalement, tu t'assieds plus souvent, quoi.
Quoi?
Tu t'assieds plus souvent depuis que tu as commencé, plus tu t'assieds, plus tu t'assieds.
Tu peux relire ça?
Plus tu t'assieds, plus tu. The more you sit, tu sais pas, the more you sit, plus tu t'assieds, plus tu t'assieds.
Je sais
finalement,
pas.
Tu t'assieds depuis ce moment, tu as fini ce que tu t'assieds.
Ouais. Ouais, ce qui est vrai, c'est que quand j'ai commencé cette pratique.
Ça fait pas longtemps.
Quand j'ai commencé cette pratique, je croyais que j'allais mourir après 20 minutes. Mes genoux étaient mortes, ça faisait tellement mal. Donc c'est vrai que 20 minutes c'était le maximum. Mais ces 20 minutes j'adorais. jusqu'au moment où je croyais que j'allais mourir, mes genoux. Mais j'adorais ça.
Même avec ses genoux.
Quoi?
Même avec ses genoux.
Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est un peu comme l'accouchement. Toi, tu as qui est accouché aussi.
L'accouchement, c'est quoi?
Having a baby.
Ah.
On oublie. On oublie. C'est fou, hein? Je ne sais pas si toi, cette expérience, mais.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup de femmes me disent, elles viennent d'accoucher, c'est un truc extrême quand même. Hein. Et tout de suite, elles ont envie de faire un autre.
Oui, c'est vrai.
C'est un truc très, très étrange. Mm-hmm. Et moi-même, j'ai eu ça. Bon, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en même temps, on se dit, non, attends, mais quand même, il faut attendre un peu, là, bébé, quelques heures. Il faut attendre un peu quand même. Mais. Donc c'était un peu comme ça, c'est qu'on oublie et les douleurs, ça se, on a tous eu cette expérience quand même. C'est pas évident au début.
Sauf qu'il n'y a aucune vertu à avoir mal aux genoux.
Pas du tout.
Non mais je veux dire.
Pas du tout.
Moi j'insiste beaucoup sur le
c'est
fait
c'est
qu'il
pas qu'il recherché, non.
Voilà, il faut trouver la posture qui soit confortable, quoi. On n'est pas là pour se faire mal non plus. Mm. Et puis quand on voit Roshi qui ne peut plus s'asseoir, etc.,
oui.
C'est que c'est. Il ne faut pas aller sur ce versant-là. Hein.
Non. Ce qui est important quand même, c'est de. Non, il ne s'agit pas de se faire souffrir. En même temps, ce qui est très très important et très bénéfique, c'est de nous sortir de notre zone de confort. Il ne s'agit pas non plus d'être super confort, comme ton copain qui est venu. Tu as dit trouver une posture confortable, il s'est allongé pendant des heures. Il s'agit pas de ça non plus.
Je rajoute maintenant, et qui ne facilite pas l'endormissement. Parce que j'ai dit, mais parce qu'il y a plein de pratiques où on peut être allongé. Mais au début, quand même.
Bon, pour moi, là, je parle de mon expérience aussi, c'était très, très bénéfique d'avoir les contraintes quand même d'un certain nombre de minutes. Et bon, j'étais dans les trucs qui étaient plus formels que nous, donc on était censé avoir une posture. Bon, personne forçait quoi que ce soit, mais moi, je voulais bien faire, donc je voulais avoir une posture en tailleur, etc. Pas de lotus, mais. Et il y a quelque chose de très très forte dans ça. Et c'est pour ça que je maintiens quand même un cadre, même si c'est un peu plus assoupli. Et je maintiens des formes et des rituels qui ont un sens pour moi, qui ont eu un sens pour moi, et que j'estime peut avoir un sens pour les autres, dans cette optique de. Qu'est-ce qu'on fait ici, c'est de se libérer de ce qui nous entrave pour être entièrement moi. Alors, qu'est-ce qui peut favoriser ça? Si c'est un truc qui ne me parle pas du tout, peut-être ça parle à quelqu'un d'autre. Il y a des formes qui peuvent peut-être parler à quelqu'un d'autre, mais si ça ne me parle pas, bon, et c'est moi qui décide, plus ou moins ici. Hein. Ou si je, c'est pas moi qui décide, mais si j'ai l'impression que ça peut être bénéfique pour les autres, ok, on le fait. Et parmi ces choses, c'est qu'on s'assoit un certain nombre de temps, une certaine quantité de temps, on a un rituel de cloche, etc. J'ai été dans des situations où on n'avait pas ça. Et ça partait en. Comment on dit? Il y a une expression comme ça.
À volo.
Quoi?
À volo.
Quenouille.
Oui.
Ça, en boudin.
Oui, c'est ça. Bah, voilà, vous avez tous. Vous avez compris. Ça partait, c'était un peu n'importe quoi. Personne ne savait quoi faire. Tout le monde était un peu embarrassé. Se rigolant un peu.
Il n'y avait pas quoi? Qu'est-ce qu'il y avait,
Il y avait une cloche, mais on ne savait pas comment s'asseoir, qui allait faire quoi. combien de temps on allait faire.
Il n'y avait pas une personne comme toi, ou un maître.
Il n'y avait aucune figure d'autorité qui disait « Ok, on va faire comme ça ». Non. Et donc on était un peu livrés à nous-mêmes, et finalement, moi je dis « Ok, bon, ben, j'ai pris le truc et j'ai fait des cloches, parce qu'il fallait faire quelque chose quand même. Sinon, on ne va rien faire. »
C'était dans quel contexte?
C'était dans un contexte, c'était tout à fait au début, c'était la première fois qu'on a fait Zazen à Montreuil. Mais c'était pas à Danin, cet endroit. C'était à la famille de Danin.
Ce n'était pas encore Danin, c'est ça?
Oui, c'était pas encore Danin. Mais différents groupes utilisaient ce qui est le Zendo aujourd'hui, utilisaient ça pour des activités. Il y avait des maîtres bouddhistes qui venaient, Surya Das, Namgal, etc. Et donc on avait décidé, il y avait Roshi à cette époque, elle avait, je crois, 3 étudiants à Paris, 3 étudiants dans le monde, 4 dans le monde, peut-être 5 peut-être dans le monde, mais il n'y en avait que 3 à Paris. Et on avait décidé qu'une fois par semaine, on allait faire une soirée de méditation. Et seulement la première fois qu'on l'a fait, elle n'était pas là. Elle était en voyage, faisant ses chines dans les 4 coins du monde, je ne sais pas où. Ouais. Et donc on était là, livrés à nous-mêmes, et personne ne savait vraiment quoi faire. Et pour moi, c'était une expérience très importante, parce que c'est comme si j'ai compris pourquoi il y avait des formes. J'avais fait 2 retraites avant ça, sans comprendre du tout ce qui se passait. Je suivais ce que les autres faisaient, hein, plus ou moins, je savais pas du tout. Hein. Mais j'ai compris ce soir-là l'utilité. Mais très concret, l'utilité de la forme. Alors pourquoi j'ai parlé de ça?
C'est un peu comme quand tu parles souvent de dérives nécessaires.
Oui, c'est ça.
Dérives nécessaires. Ouais.
Une rivière a besoin de rives. Sinon, c'est pas une rivière. Un cadre. C'est en plus se reposer dans le cadre. C'est ce cadre très précis de s'asseoir pendant 40 minutes. Ça laisse libre cours à le reste, au reste de ce qui se passe. Ça favorise la possibilité de voir plus clair. C'est comme cet exemple que j'utilise tout le temps de l'eau boueuse. Si c'est secoué tout le temps, l'eau n'est pas claire. Mais si on le pose et on laisse tranquillement le sable tomber en bas, l'eau va être claire. Et c'est la même chose pour nous. C'est pas qu'il y a quelque chose, il y a du sable ou de la terre qu'il faut dont il faut se dégager. C'est plutôt la notion que ça se stabilise, ça se... C'est ça cette quiétude dont je parlais, stillness. Parce que c'est pas remué partout, c'est pas le truc qui d'habitude se passe pour nous. Et on peut voir, donc encore cette histoire de il ne faut pas bouger pendant la méditation. Là aussi, un énorme malentendu parce que c'est pas que c'est interdit de bouger, mais c'est que on cherche à ne pas bouger de l'instant. Et si on est en train de bouger avec notre corps tout le temps, on n'est pas là. Même si c'est infime, on change de position parce qu'on arrive à quelque chose qui, les genoux qui nous détruit, donc on va changer de position. Parfois, on a besoin de faire ça. On observe, et j'observe ça pour moi-même. Si je le fais une fois, je vais le faire bientôt après aussi. Et je vais avoir plus de tendance de le faire régulièrement si je le fais une fois. Donc j'essaie d'éviter cette première fois. Et juste rester avec ça et voir ce qui se passe quand je reste avec ça. C'est pas agréable, il y a quelque chose qui se passe que je n'aime pas, je vais juste rester avec ça. Qu'est-ce qui va se passer si je reste avec ça? Et parfois, je me vois parfois en zazen, soudain je me gratte et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est curieux, pourquoi j'ai fait ça? Oh, c'est vrai que ça grattait, mais quand même, pourquoi j'ai fait ça? Ou j'observe que parfois des gens, leurs pieds bougent. Le reste du corps, non, mais les pieds bougent, ok. Ou il y a quelqu'un qui a un dana, faisait toujours craquer son cou. Et donc, il était assis comme ça. Puis... Tout en restant comme ça. Ou il y a le cas de dormir. Et donc, il y en a qui... Ça, c'est autre chose, mais quand même, on n'est pas là. On n'est pas là. Et donc, ce cadre est très, très important. On n'est plus... C'est une autre façon de voir ça, les rituels et le cadre, c'est qu'on n'est plus dans mes préférences. C'est comme si... je sais pas, dans l'ordinateur, on n'a plus mes préférences. On a ça dans l'ordinateur.
Mm-hmm.
Oui, c'est ça.
Oui. Hein? Oui, surtout les logiciels.
Oui,
chaque fois qu'on ouvre les
c'est
logiciels.
Ça. Donc non, on n'en est plus. Il ne s'agit plus de mes préférences. Moi, j'aimerais peut-être s'asseoir 25 minutes plutôt que 40. Non, on n'est plus dans ça. Ou je préférais m'asseoir pendant 50 et on s'arrête après 30. Ça, c'est étonnant, mais j'ai vu ça dans les retraites. Hein. Les gens qui ne voulaient pas se lever pour faire kinim. Ils voulaient rester quand même. Et ils pensaient que c'était bien de continuer, ils voulaient continuer. Mais c'est juste une autre préférence. Et on essaie de se libérer de ça. Ou j'ai la préférence de... de me lever avant la faim ou de ne pas manger comme tout le monde dans leur yoki ou différentes choses. C'est possible, mais c'est dommage parce que on cède entre guillemets à nos préférences et c'est ok d'avoir les préférences. On a tous les préférences. Mais comme on dit, le fameux poème zen, c'est que la voie parfaite, entre guillemets, la voie de réalisation, la voie de vraie liberté, entre guillemets, c'est de ne pas être accaparé par les préférences. De ne pas choisir et ouais.
C'est marrant parce que là, tu parlais de Daiman Pang tout à l'heure, et il me semble me souvenir d'une histoire où il est, je ne me souviens pas bien de l'histoire complète, mais il va voir son maître, enfin, un maître, et il reste pas longtemps, peut-être une journée ou deux jours, ou une nuit, je ne sais plus, avec ce maître-là, et il réalise l'éveil, et le maître le reconnaît, il dit ok, donc maintenant que tu as vu de quoi il s'agit, est-ce que tu veux mettre un vêtement noir, je ne sais plus comment il formule, enfin, l'idée c'est est-ce que tu veux devenir moine, et le laïc femme qui répond je veux faire ce que j'aime, et du coup sa réponse elle dit donc non, je ne veux pas devenir moine parce que justement, devenir moine, c'est laisser tomber ses préférences. enfin, il y a cette idée là, et Diane Pan répond, non, je veux faire ce que j'aime. Et du coup, et pour autant, il ne semble pas dans cette histoire que ce soit qu'il renonce à la voix quelque part en disant ça.
Non, et en fait, il y a une autre traduction de cette même histoire qui est c'est un de ses copains qui est un maître, Sekito, je crois, c'est le maître. Et il lui demande, alors maintenant, est-ce que tu vas porter noir ou blanc? Parce que blanc, c'était pour les laïcs, et noir, c'était pour les moines. Et dans l'autre traduction, il dit, je ferai ce qui est le mieux. Et ça aussi, mais ça pouvait paraître comme un jugement. Il y a quelque chose qui est mieux. Et puis c'est ajouté à la fin, il ne s'est jamais rasé le crâne, il ne s'est jamais devenu moine. Donc apparemment il y a un jugement, ça revient à un truc que je vais fermer, ce que je préfère. Mais en fait, ce qui est impliqué dans ça, et peut-être aussi dans le truc de c'est que Peng, il aime ce qu'il est, ce qui est. Il aime ce qu'il est ici maintenant, et ou dans le je ferai ce qui est mieux, il fera ce qui est mieux selon les circonstances, les gens, le moment, etc. Et dans son cas, ce qui était mieux, mais c'est le même pour nous tous, c'est d'être, de faire ce qui est approprié, entre guillemets, pour nous, maintenant, ici, maintenant. Par contre, si on est attaché à nos préférences, s'il était attaché à quelque chose qui est le mieux, ce ne sera pas le mieux. Ce sera son idée de ce qui est le mieux. Ou son idée de ce qu'il aime. Va savoir ce que c'est de traduction. Bon, on a traduit ça de différentes façons. Probablement en chinois, c'est plus nuancé, peut-être, je ne sais pas. C'est difficile à savoir. Mais je pense que c'est ça revient au même, en fait, les deux.
I have to speak in English, I think. So it means that kind of the message of this story is I do what it is, what is appropriate at the moment,
exactly.
What is required.
Yeah. Okay. Exactly.
Yeah, okay.
And so one way of saying it is I will do what's best.
Yeah.
Another way of saying it is I do what I like. But what I like is what is this?
Yeah.
What is appropriate?
So when we are meeting here for a weekend, we kind of decided to follow some forms and some rituals and the sitting. We agreed to that. So this is what is appropriate or what is
exactly
what is the best or what I like. Like I come from this for this.
Yeah. Exactly. Years and years and years ago, this Polish guy came to Dana, and he was running the Korean Zen Center here in Paris. I can't remember what his name was. I think he died, actually. Do you remember that Korean?
Yeah.
Anyway, Jakob something. And he came and gave a talk to Dana. And someone said, and he was very formal and whatever. And someone said, well, so, you know, what is the best practice or something? And someone asked him, what is the best practice? And he asked him back. He didn't answer, he asked the question back. He said, what is the best practice? And no one said anything. And suddenly it occurred to me, I said, my practice. Because that's it. my practice is the best practice for me. It so happens that it's the same for all of us, because all of us have the same practice, which is our practice, not necessarily this practice. But we each have to find what's best for us. So Layman Pang, is what's best for him was to wear white, to not become a monk. For his friend, who was the abbot of the monastery or whatever, it was something else. And if one is not, there's no value judgment saying this is the best. However, this is why we need to free ourselves from these ideas we make about things, because otherwise we won't find what's best for us. We will just be following what we think we are or aren't. You know? Now, I realized I've gone off into English. In fact, I knew I was. But, tu voulais dire quelque chose?
Un autre sens pour le mot dharma, c'est le réel. Il a les deux sens, l'enseignement et le réel.
Le réel,
réalité.
La vie, le réel, mm-hmm. Le réel. Mm-hmm. Il a le double sens.
Tous les phénomènes.
Oui, mm-hmm. La réalité, le réel. Le...
Une importance aussi du. Pas avoir mal, faire attention. Moi, je me souviens de la première retraite que j'ai faite, où je ne l'ai jamais assise de ma vie, et une vipassana, et le corps, évidemment, en souffrance, mais absolument à fond. Mais voilà, c'était. Après, évidemment, on pouvait bouger, on pouvait appeler des gens sur les chaises, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est d'arriver au moment où la souffrance, tu vois ce qui se passe. Et là, tu dépasses la souffrance. Enfin, elle est. T'as mal, mais. T'as mal, quoi. Et si tu le fais pas, et si à un moment tu forces pas, ça, tu peux pas t'en rendre compte.
Exactement.
Donc, comment tu gères ça dans l'enseignement, quand tu transmets ça? C'est un moment. Oui, il faut pas se faire mal, mais. Si tu le poses pas, tu peux pas faire cette expérience.
C'est la différence, je pense, entre l'inconfort. Mm-hmm. Et vraiment non, avoir. Mais c'est-à-dire. Et avoir une posture qui est de toute manière, à la base, va te ruiner pour le, sur le long terme. Et ça, c'est pas souhaitable. Mais c'est le truc de, effectivement, je rate mon nez, etc. Où je me. Le corps aussi te pousse vers la sortie, en fait, en t'agitant. Et donc, il faut trouver la balance, à mon avis, pour voir si c'est. Effectivement, si c'est un truc de juste pour pas être là, ou si c'est juste à la base de vraiment. Je pensais à la retraite là, l'été dernier, il y avait une personne qui avait une posture tellement affreuse, mais tellement affreuse, qui est partie en plein milieu. C'était impossible. Je lui ai dit, tu veux pas? Non, c'est bon, je gère. Et c'était impossible. Donc là, ça sert à rien. C'est inutile, contre-productif. C'est-à-dire que c'était mauvais pour lui. On voyait bien que c'était très...
Tu peux rester 5 minutes comme ça, mais pas 7 jours, tu vois.
C'était mauvais. Et on voyait ça de la colonne vertébrale complètement. Quand tu vois des gens avec la colonne vertébrale complètement courbée, où tu es dans une posture, où tu es obligé... À un moment, tu vois bien que c'est pas souhaitable, quoi.
Et comment ça s'est passé, là?
Il est parti.
Oui, il est parti.
Il n'a pas voulu avoir des instructions sur la posture, il est parti. Parce que ça faisait... Il était en souffrance. Donc,
il n'a pas dit ça, mais
non,
c'était clair.
Mais c'était clair.
Tout ce que je voulais c'était dire, clair. C'est que c'est dur de trouver le... Il y a un moment où cette expérience-là est aussi...
Oui. Ouais,
c'est important parce que ça te révèle des choses, en fait.
Et c'est pour ça que dans ces pratiques, si c'est vraiment très strict, on exige une posture, parce qu'on sait que cette posture-là est possible. La posture que ce gars avait, ce n'est pas possible. Ça ne va lui amener aucun enseignement sur lui-même, sa capacité de dépasser les souffrances. Ça ne va pas du tout aider. C'est pour ça qu'il y a des postures que dans certains groupes sont très strictes. Il y a même des groupes où si tu es dans une chaise, tu es derrière un rideau. Parce qu'il ne faut pas être sur une chaise. Bon. Il ne s'agit pas de ça, hein, mais ça, c'est une extrême. C'est pour ça que c'est important de dire, voilà, ça, c'est les différentes possibilités. Et aider la personne à trouver... Parce qu'on sait que ça marche, entre guillemets. On sait que ça va être possible. Ça va être difficile, mais c'est possible. Si on a le dos droit, mais comme il était assis, il ne pouvait pas avoir le dos droit. On essaie d'avoir les genoux par terre, ou si on est dans une chaise, les pieds plats par terre, etc. Faut dire que oui, je ne suis pas très exigeante avec des postures, et donc ça se traduit par des gens qui n'ont pas forcément une très bonne posture dans notre groupe, surtout au Portugal. Donc, c'est une... ça fait partie de mon work in progress, des choses auxquelles j'ai l'intention de mettre plus d'emphase, mais...
Did you want to say that you should give more instructions?
I don't know if more instructions, because we do give instructions to beginners, always. But maybe emphasize it more. And encourage people not to lean back against the wall, for example, because a lot of people do that. When they start getting tired at night or something, they lean back against the wall. Or maybe talk about it more. I never talk about the posture, really. Maybe I should talk about it more.
I discover for myself that when I'm tired, for example, now I was tired and was doing like this, but I have to be really, I have to have good sleep. Good sleep, when I'm in the morning, it's much better. It's much better. I don't fall asleep. I can stay in the posture much better than in the evening.
Yeah, it's important.
It's difficult to stay awake for me sometimes.
Yeah. Yeah, no, it's true.
So good sleep really helps.
Yep. And that's why sometimes I say, je dis parfois aux gens quand ils disent ah oui je suis fatigué, je m'endors, etc. Parfois c'est vraiment parce que on est fatigué et on a besoin de dormir. Et si c'est le cas, il vaut mieux aller dormir. Parfois ce n'est pas ça. Parfois c'est une fuite. Donc c'est on ne sait pas. C'est important d'être attentif à ça. Mais souvent, oui, le matin est très propice. Do you know that word? No. It's very conducive to meditation. It's very favorable for meditation. Okay. Tout est frais. On n'est pas encombré par toute la journée. On est reposé. C'est plus clair. Bon, sauf si on s'est réveillé à 4 heures du matin. Bon, il faut peut-être s'arrêter là.
Il est moins.
Ok, bon. On peut s'arrêter. Merci.